Quotidien avec Hélène Denis.
Bonjour à tous, 11 septembre 2025, bon jeudi. Merci d'être à l'écoute d'Au quotidien, c'est Hélène Denis qui vous accompagne jusqu'à 11h. Aujourd'hui, j'aurai de la grande visite la présidente-directrice générale de Vues et Voix, Marjorie Théodore, qui sera en entrevue à 10h30 pour parler de la conférence « Intelligence artificielle et handicap visuel, transformer l'accessibilité ». C'est un événement virtuel et gratuit qui aura lieu les 16 et 17 septembre organisé par Vues et Voix. Également, on aura, les sports, les parasports avec Dominique Tremblay qui sera avec nous en fin d'émission et les collaborateurs du jeudi, Yvan Deslauriers qu'on va retrouver à 10h et Monique Quirois qui est déjà au bout du fil. Bonjour Monique.
Bonjour Hélène.
Monique, vous allez parler d'astrologie, de tarot. Je pense qu'il va y avoir plein de monde accroché à vos lèvres.
Ben oui, parce que peut-être que ça vous est déjà arrivé, Hélène, de souhaiter connaître ce que vous réservez l'avenir.
Bien oui, c'est humain, je pense.
Vous avez peut-être consulté un astrologue, on vous a lu les cartes de tarot ou encore les lignes de la main. Alors, écoutez, je pense qu'on a tous ou toutes consulté à un certain moment donné.
En tout cas, il y a une curiosité, hein? Il y a une fascination.
Oui. Ah, tout à fait. Alors, j'ai trouvé intéressant, donc, qu'une professeure s'intéresse à la question. Elle s'appelle Anna Tervanotko. Elle s'est demandé pourquoi ces pratiques qui ont des siècles d'histoire suscitent encore à ce jour un vif intérêt. Elle est professeure agrégée en études religieuses à l'Université McMaster en Ontario. Et cet article a été publié dans La Conversation du 8 août dernier.
Bon, alors nous serons à l'écoute, évidemment. Oui. Est-ce que vous avez un jeu de tarot chez vous?
Moi, j'en ai pas. Non. Mais je dois dire que j'ai déjà consulté une astrologue.
Vous faites votre coming out ce matin.
Ouais, c'est ça qu'il m'a dit lorsque je suis arrivée chez elle. D'abord, je portais un veston rouge.
Ouais.
Et que elle était totalement fébrile et qu'elle comprenait quand elle m'a vue pourquoi.
Ah bon?
J'ai trouvé ça amusant.
Oui, à partir du veston rouge que vous portiez, elle pouvait déjà voir ce qui allait vous arriver.
Non, mais c'est même avant que j'arrive.
Ah d'accord.
Pourquoi elle se demandait pourquoi elle était si fébrile avant que j'arrive.
OK, à cause de votre veston rouge.
Puis quand je suis arrivée, elle a dit « Ah! »
Tout voilà. S'explique. Eh bien,
oui.
Bon, alors, bon, on rira pas, hein, on peut se moquer, là, mais gentiment, là, parce qu'il y en a qui prennent ça vraiment au sérieux.
Oui.
Justement, comme la personne qui a écrit le texte, j'imagine, dans la conversation que vous allez partager avec nous.
Tout à fait.
Merci, Monique. On y va avec une nouveauté. Voici Zoo Bébé.
J'ai le cœur pour l'amour, pensamiento di amor. J'ai pas de problème, Problème, une chanson de Zoo Baby.
Oui, problème. Et il y en a beaucoup de problèmes si on s'attarde à l'actualité. Un traitement choc, remaniement ministériel, c'est la une du Devoir. Le premier ministre François Legault a exclu l'éducation et l'environnement de ses priorités au profit de l'efficacité lors du remaniement mercredi. Avec son remaniement annoncé hier, le premier ministre François Legault marque un virage à droite et promet un traitement choc dans l'État québécois qu'il souhaite plus efficace. Il retire l'environnement et l'éducation de sa liste de priorités et promet de rétablir la loi et l'ordre pour améliorer la sécurité des Québécois. Le nouveau monde exige, comme on dit en québécois, de mettre nos culottes. Personnellement, j'ai plus que jamais, le goût de me battre à l'âge que j'ai. Je ne suis plus dans des concours de popularité, a-t-il lancé alors que la coalition Avenir Québec et son chef accumulent les mauvaises nouvelles dans les sondages d'opinion. Il a comparé le système actuel à une camisole de force et s'est engagé à couper profondément dans la bureaucratie. Son nouveau conseil des ministres compte 22 membres, 20 hommes et 12 femmes. Deux d'entre elles auront des missions clés. Le poste de ministre responsable de l'administration gouvernementale, bonifié du titre « Efficacité de l'État », est confié à France-Hélène Duranceau, aussi choisie comme présidente du Conseil du Trésor. « On ne l'appellera pas Cruella », a blagué le premier ministre, qui lui a quand même confié le mandat d'administrer un traitement choc à l'État québécois. Il va falloir que chaque ministère fasse le ménage dans sa bureaucratie, a exigé M. Legault. Bof, c'est le titre de l'éditorial de Michel David. Le premier ministre Legault, écrit-il, fait penser à un instructeur de hockey dont le club est pratiquement éliminé et qui espère remonter dans le mix, écrit entre guillemets, avec des joueurs qui n'avaient jamais réussi à faire l'équipe. Même en remontant aux années 1960, un remaniement ministériel n'a jamais sauvé un gouvernement en perdition, écrit Michel David. Philippe Falardeau, film avec son cœur. Son film a été présenté au Festival de Toronto, au TIFF. Le réalisateur parle de son adaptation lumineuse et étonnamment personnelle de « Mille secrets, mille dangers », roman à succès d'Alain Farah. Roman que j'avais lu avec énormément de plaisir. Je ne suis pas la seule. Et on avait reçu Alain Farah pour parler de son roman extraordinaire. J'ai bien hâte de voir ce film à l'écran. Le film prend l'affiche le 19 septembre. François Lévesque l'a vu et l'a aimé et il s'est aussi entretenu avec le réalisateur Philippe Falardeau. À la une du Journal de Montréal, il remanie, point de suspension, un peu son cabinet. 7 pages à ce sujet, 5 chroniques, les chroniques de Rémi Nadeau, José Legault, Antoine Robitaille, Marc-André Leclerc, Emmanuel Latraverse. Et c'est écrit en grosses lettres, en lettres majuscules, à la une du Journal de Montréal de ce 11 septembre. Legault joue ses dernières cartes. Et en page 3, on parle de cet homme qui a été abattu, le meurtre d'un influenceur trumpiste abattu par balle hier sur un campus universitaire et le reflet d'une vague de violence politique qui secoue de plus en plus la vie des Américains, affirment des experts. Des gens ont tenté d'abattre Donald Trump à 2 reprises par le passé. Des politiciens de la Chambre des représentants et même des juges de la Cour suprême ont aussi été visés. Tout ça est très inquiétant et reflète la violence à caractère politique qui se multiplie dans ce pays, constate Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine. Charlie Kirk, 31 ans, était une voix majeure de la jeunesse pro-Trump aux États-Unis. Ce militant conservateur était suivi par près de 7 millions d'abonnés sur Instagram et sur la plateforme X. Il est mort hier après avoir été victime d'un tir fatal au cou lors d'une conférence sur un campus universitaire en Utah. C'est une tragédie pour tout le monde, ce décès. Autant les démocrates que les républicains, qu'on soit d'accord ou pas avec ses opinions de droite, c'est quelqu'un qui a profondément inspiré et motivé la jeune génération à s'intéresser à la chose politique. C'est un drame qui vient noircir la capacité de débattre, explique Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Et une seule personne serait impliquée dans le crime contre le militant, père aussi de 2 jeunes enfants. La chasse à l'homme se poursuivait toujours en fin de soirée hier. À la une de la presse, plus remaniement ministériel. Alors qu'on voit M. Legault, virage à droite, en plus de remanier son cabinet, François Legault annonce un traitement choc. Le premier ministre entend couper profondément dans la bureaucratie de l'État, présenter une nouvelle vision économique, s'attaquer à l'explosion de l'immigration et imposer la loi et l'ordre pour lutter contre la criminalité. Michel Séauger et Paul Journet ont chacun leur mot à dire sur ce remaniement. Charlie Kirk, une figure de proue de la jeunesse pro-Trump, abattu. La violence politique normale, entre guillemets, encore plus la chronique d'Yves Boisvert au sujet de cet assassinat de Charlie Kirk. Et Marie-Ève Fournier, Cartel du pain, réclamez votre tranche des 400 millions de dollars. Cette histoire abracadabrante de Cartel du pain est loin d'être terminée, mais au moins elle avance. Ceux qui ont acheté du pain entre 2001 et 2021 peuvent désormais s'inscrire en ligne pour obtenir une indemnisation. Une somme alléchante de 100 $ par personne a été évoquée devant le juge. Nous avons tous payé notre pain au moins 1,50 $ trop cher pendant des années, selon le Bureau de la concurrence. L'heure du remboursement est arrivée. Il sera possible de soumettre sa réclamation à compter d'aujourd'hui sur le site www.règlementpainquebec.ca. Ai-je appris? La date limite est le 12 décembre. Ne tardez pas, car vous risquez d'oublier. Aucune preuve d'achat n'est requise, ça va de soi. Alors, je vous redonne l'adresse www.règlementpainquebec.ca.
Emma Peters qui reprend la chanson « Femme like you ».
Et c'est Monique Kirouac qui est là. Pendant les prochaines semaines, Monique, vous commencerez et puis Yvan sera avec nous à partir de 10 heures. Pourquoi l'astrologie et les cartes de tarot qui ont des siècles d'histoire nous intéressent-elles encore? Je sens que vous avez la réponse pour nous.
Ben, c'est pas moi qui l'a, Hélène, tout à fait. C'est Anna Tervanotko, ouais, qui est professeure agrégée, comme je le disais en introduction, en études religieuses de l'Université McMaster. Alors, elle nous dit que, d'après un rapport récent du Pew Research Center, pardon, pour plus de 30% des Américains, ces derniers croient à des pratiques ésotériques et consultent régulièrement des astrologues, tarologues ou cartomanciens. Même si l'enquête indique que ces personnes le font pour s'amuser et déclarent ne se fier qu'un peu aux informations obtenues par la divination, la persistance et l'augmentation apparente de ces pratiques semblent montrer qu'il y a quelque chose de plus profond en jeu. Les humains se sont toujours tournés vers la divination pour trouver des réponses à leurs questions et acquérir des connaissances qui pourraient les aider à se préparer pour l'avenir, en particulier dans les périodes d'incertitude.
Qui sait si M. Legault est allé en rencontrer une médium pour savoir comment faire son remaniement ministériel? Pardon?
Peut-être pour constituer son,
oui,
son conseil des ministres. on ne
sait?
Le saura jamais, je pense, Hélène.
Je pense pas.
Ainsi, les recherches sur les cartes de tarot ont augmenté de plus de 30% en pandémie. La professeure Terva Notko étudie la divination à l'époque de l'Antiquité, mais elle a aussi observé des devins contemporains à l'œuvre et elle a discuté avec eux de leurs pratiques pour mieux comprendre leur travail. Alors, ces derniers affirment que leurs clients demandent des consultations de tarot plus fréquemment qu'auparavant. Mais qu'est-ce que la divination? Alors, selon le dictionnaire Usito, ce dernier définit la divination comme suit. Art, capacité supposée de prévoir l'avenir et de connaître ce qui est caché par l'interprétation non scientifique de phénomènes. Du côté du Merriam-Webster, ce dernier parle d'un ensemble de pratiques qui cherchent à prévoir ou à prédire des événements futurs ou à découvrir des connaissances cachées, généralement par l'interprétation de présages ou à l'aide de pouvoirs surnaturels. Les méthodes divinatoires telles que le tarot et l'astrologie permettent de poser des questions lorsque d'autres systèmes ne fournissent pas de réponses. Ces questions peuvent être très personnelles et difficiles à aborder, par exemple, dans un cadre religieux formel. Les réponses divinatoires donnent le sentiment d'avoir une compréhension plus profonde, ce qui peut engendrer une impression de contrôle sur un avenir incertain. En tout cas, on se conforte dans les annonces ou les promesses qu'on nous fait.
On prend l'espoir où on peut.
Oui, c'est ça, exactement. Puis, je sais pas, moi, j'avais consulté à un moment où, disons, j'étais plus fragile dans ma vie, là. C'était à la suite d'une séparation. Mettons que ça fait pas mal de bien.
Bon.
Outre l'astrologie.
C'est ça le but.
Pardon?
Tant mieux si ce but-là est atteint.
Oui, tout à fait. Outre l'astrologie et le tarot, les méthodes les plus connues sont l'interprétation des rêves, la lecture dans les tasses de café ou les feuilles de thé, l'observation des animaux et de la nature, ça c'est la première fois que j'entends ça, ainsi que la lecture des lignes de la main et d'autres caractéristiques corporelles, là aussi j'ai été étonnée, telles que la forme du nez ou l'emplacement des yeux.
Et Monique, alors, je vais arrêter de vous interrompre, là, mais je voulais juste vous dire, parce que j'ai eu une sorte de flash quand je faisais de la radio à Val-d'Or. À un moment donné, j'ai fait de la télévision communautaire et puis j'avais toutes sortes de collaborateurs, collaboratrices, dont une, on avait fait un spécial justement astrologie et il y avait une personne, une invitée qui lisait elle dans les œufs. Alors, on cassait un œuf dans un verre d'eau et puis les gens téléphonaient, puis elle lisait dans les œufs. Mais ça, c'était un peu farfelu quand même, mais elle était très sérieuse dans sa démarche.
Ben, c'est ça. Faut tout prendre au sérieux, comme l'emplacement des yeux.
Bon. Oui.
Alors, lorsqu'une personne utilise des objets, comme des cartes, les feuilles de thé, des dés ou des coquillages, ben, le facteur commun de ces méthodes est l'impossibilité de contrôler les signes qu'elles produisent. Par exemple, on doit généralement mélanger le jeu de tarot pour garantir des résultats aléatoires. Il ne faut pas manipuler les résultats. Jamais, jamais. Alors, les données de Pew Center révèlent qu'aux États-Unis, les jeunes, les femmes et les membres de la communauté LGBTQ sont parmi les personnes qui ont le plus recours à des méthodes divinatoires. Marcelite Faya, professeure d'études religieuses, a écrit sur des femmes noires contemporaines qui se sont réappropriées le jeu de tarot pour répondre de manière créative à leurs besoins spirituels. De nombreuses personnes se tournent vers la religion lorsqu'elles sont confrontées à l'inconnu. Elles utilisent leurs pratiques religieuses pour résoudre leurs insécurités et solliciter l'aide divine. Cependant, il y a toujours eu des personnes qui n'avaient pas accès ou qui ne voulaient pas, en fait, avoir accès à une religion formelle. Les pratiques divinatoires peuvent être particulièrement attrayantes pour celles qui ont été exclues de la religion traditionnelle et qui ont dû trouver d'autres moyens de surmonter leur incertitude. Ce pouvait être le cas de ceux qui vivaient dans des régions isolées, Il pouvait aussi avoir été exclu de la religion pour des raisons d'identité. Au Canada, le traitement discriminatoire des minorités sexuelles par les églises est un des premiers motifs pour lesquels les gens cessent de fréquenter les lieux religieux. À une époque marquée par l'anxiété, l'instabilité politique et la perte de confiance dans les institutions, les anciens rituels de divination offrent aux gens des moyens de se divertir, mais aussi de trouver un sentiment de compréhension et de connexion, ainsi qu'une capacité d'action. Ce qui peut sembler n'être qu'un simple divertissement constitue parfois une réponse sérieuse à un monde chaotique. Ou rassurant, si c'est pas une réponse sérieuse, c'est une réponse rassurante. Les pratiques divinatoires apportent à la fois une exploration spirituelle et une validation émotionnelle. Il est naturel qu'une situation aussi nouvelle qu'une pandémie engendre de l'anxiété et de l'incertitude. Encore aujourd'hui, les gens ressentent davantage d'anxiété qu'avant la pandémie de COVID-19. Parmi les principales sources d'inquiétude, on le devine, hein, puis on en a fait état un peu plus haut, on compte la politique mondiale, la sécurité d'emploi et les finances personnelles. Alors, pendant que nous tentons de comprendre des situations nouvelles, déroutantes, en constante évolution, de nombreuses personnes élaborent des théories dont certaines sont discutables. Pour développer une connaissance du monde, on peut s'intéresser à d'autres approches comme la divination. Les gens consultent des lectures de tarot sur des plateformes en ligne. De nombreux comptes de réseaux sociaux présentent du tarot. Outre l'insécurité politique croissante, il y a une autre raison de cet intérêt accru pour le tarot, peut-être son aspect visuel. L'attrait pour les cartes illustrées, pour refléter notre culture hautement visuelle, ainsi que l'intérêt pour d'autres images que nous aimons regarder aussi. Ces cartes sont comme des photos avec des messages. La fascination pour le tarot peut également refléter un besoin d'avoir une certaine maîtrise de la consultation, car le tarologue et le client voient la même chose. Les images sont symboliques et peuvent être interprétées de différentes manières. En conclusion, cela signifie que plutôt que de fournir une réponse directe à une question, ben les cartes sont des outils qui peuvent aider la personne à réfléchir à ses émotions et à ses sentiments. Alors, peut-être cela vous invite-t-il à consulter les cartes de tarot ou encore à aller rencontrer un ou une astrologue. Cartomancienne.
Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je peux pas répondre parce que j'ai aucun talent de voir l'avenir.
Non, vous voulez pas voir l'avenir. En fait.
J'ai de l'intuition là, mais ouais. Non, j'ai pas l'astrologue comme en
ça,
moi.
En fait, ça nous dit n'importe quoi là.
Ah, ça, je sais pas, par exemple.
Ça nous fait plaisir. Bon, je peux en témoigner, là.
Oui, oui, bien, parce que là, vous avez rencontré une personne, mais parlez-en à Véronique Cloutier, qui va voir son astrologue et qui, elle, prend ça vraiment à cœur, ce qu'elle entend et ce qu'on lui dit. Oui, oui. Puis il y a plein de monde dans le milieu de la politique, des gens très, très sérieux. On se dit, ah oui, ça peut être étonnant, mais il y a des gens qui prennent ça vraiment à cœur et qui y croient, c'est ce que je voulais dire.
Ah oui,
aussi.
Ben oui. Ouais. Ben c'est correct.
Chacun
hein?
sa foi.
Ben exactement. On fait le choix d'aller dans une église ou d'aller voir une astrologue, pourquoi pas.
Mm-hmm. On parle d'une foi pas religieuse ici, là, malgré que
non.
Ça peut être aussi
mais on fait ce choix-là.
Pris au sérieux qu'une religion classique. Merci, Monique. Oui.
Une photo prise contre la brise, le voyage à venir donne envie de sourire. 10 000 km et l'envie d'y être, une flèche armée sur l'arc, pieds nus sur le tarmac. Mais je crains la violence, c'est mon vol le plus pesant de désir. Chasser le bruit des mots.
sur le bruit des mots, dans ce chant des oiseaux.
C'était Lumière et sa chanson Few. Oui, voilà, c'est voilà.
Sa chanson Few?
Oui, c'est Few, F-I-O-U.
Ah oui, interjection, une expression. Few, on l'a échappé belle. Bon, il nous reste une dizaine de secondes juste pour vous dire que l'émission est loin d'être terminée. À venir, une chanson qui va peut-être vous faire danser. Et Yvan va nous parler de danse en ligne.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Ce matin, je suis parti, le cœur bien embêté. Elle m'a laissé un mot sous l'oreiller. Adieu, bébé chéri, tant pis si c'est fini. Et n'essaie surtout pas de me trouver. J'ai eu le cœur brisé à force de trop aimer. Mais j'ai trouvé la façon d'oublier. Car dès qu'elles sont parties, je me mets à danser. The achy, breaky, achy, breaky.
Come on, hey!
Dansez avec moi, le achy breaky dance. Frappez les mains, allez, suivez les pas. C'est facile à danser, oubliez les ennuis. Allons danser le achy breaky dance. C'est pas trop compliqué, c'est la danse qui guérit les cœurs brisés. Adieu bébé chéri, tant pis mais j'ai compris. Et n'essaie surtout pas de revenir. J'appelle cousine Louise, j'appelle son amie Lise. Et on se retrouve pour danser toute la nuit. Quand elles seront parties, toujours je danserai. Le achy breaky, achy breaky dance.
Come on, girls.
Dansez avec moi, le achy breaky dance. Frappez les mains, allez, suivez les pas. C'est facile à danser, oubliez les ennuis. Allons danser le achy breaky dance. Achy breaky dance, tapez les mains, allez, suivez les pas. C'est facile à danser, oubliez les ennuis. Allons danser le achy breaky dance. Dansez avec moi, le achy breaky dance. Frappez les mains, allez, suivez les pas. C'est facile à danser, oubliez les ennuis. Allons danser le achy breaky dance.
Ça donne le goût de faire de la danse en ligne. Yvan, avez-vous dansé?
Ben oui. Ben oui. Ben sur ma chaise, mais oui.
OK. De la danse ben, sur chaise.
Oui, mais moi, j'aime ça danser.
Ah, ben c'est merveilleux. Vous n'avez pas nagé, mais vous avez dansé.
Oui, c'est ça. Oui, oui, j'ai pris des cours de danse sociale, puis non, j'aime vraiment beaucoup ça. C'est une façon de rencontrer des gens qui est différente. Tiens.
Oui, la danse en ligne, est-ce que vous avez déjà essayé ça?
Oui, ben dans les mariages, il y a toujours une danse.
Ah oui, d'accord.
En ligne.
Mais pas de cours comme tel, là.
Non, mais je suis pas pire pour être capable de suivre. Alors, une fois que j'ai regardé comment ça fonctionne, je suis capable d'embarquer.
Ah oui, chanceux. Alors, oui. Vous avez choisi de lire « Les bénéfices de la danse en ligne ». C'est un texte qui a été publié dans la presse récemment.
Oui, le 7 septembre. Et c'est un texte à deux volets. Je vais vous en lire un, puis je vais vous parler de l'autre, probablement. Je regarde le temps. Alors, c'est une autre façon. J'écoutais Monique tantôt avec sa chronique sur la divination et le tarot. Je pense que c'est une autre façon d'essayer de se sentir bien. Alors, c'est complètement différent, évidemment. Puis, un n'empêche pas l'autre non plus. Alors, lançons-nous.
Monique, Monique, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Oui, vous êtes d'accord?
Ben oui, pourquoi pas. En fait, la danse, c'est très libérateur. Hein?
Oui, oui.
Puis d'ailleurs, j'ai une brève, je ne sais pas si je la lirai, mais qui concerne justement le rythme et la danse et les effets que ça peut avoir sur notre santé, en fait.
Bien, c'est sûr qu'on va vous la demander, cette brève-là.
Tout à fait.
C'est pas trop. C'est un peu long, par exemple, Hélène.
Pas grave. On a du temps.
Puis la danse en ligne, il y a des patrons, hein. Il y a des. Donc, il y a une question de mémoire, il y a une question. Alors, ça touche plusieurs aspects, on va voir. Alors, ça commence. C'est le premier titre, le premier onglet, c'est bien vieillir. Puis là, il faut que j'ai une espèce de. J'ai pratiqué. Alors, 5, 6, 7, 8, la danse en ligne comme élixir de jouvence. Alors, qu'ils la pratiquent depuis 2 ans ou depuis une éternité, les adeptes de la danse en ligne en tirent d'immenses bénéfices sur les plans physiques, cognitifs et sociaux. Et je vais vous présenter 3 personnes qui en tirent de grands bénéfices. C'est un article de Stéphanie Morin dans la presse du 7 septembre. Alors, lorsque la télé n'a rien de bon à lui proposer, Rolande Marchand se tourne vers un rituel bien à elle. Elle met de la musique sur sa chaîne stéréo et danse seule dans son salon. La valse, sa danse de prédilection, le mambo, le cha-cha. Elle dit « Je suis chanceuse, j'ai de bonnes jambes, c'est peut-être à cause de la danse. » Elle nous dit « Celle qui a 98 ans et demi, précise-t-elle. »
98 ans.
Wow. Oui, rendu. En fait, c'est drôle, c'est à chaque bout du spectre. Les jeunes enfants, ils comptent les mois puis les demi-années, puis je pense que c'est la même chose quand on est rendu à l'autre bout. Enfin, 3 fois par semaine, je monte les 54 marches. Monique, écoutez ça.
Oui.
C'est une de vos adeptes. 3 fois par semaine, je monte les 54 marches qui relient la salle à manger à mon appartement au 4e étage. Et quand je rentre chez moi, je n'ai pas le cœur qui débat dans la poitrine. Pardon. Même si elle dansait enfant sur de la musique traditionnelle dans des soirées canadiennes, la danse est véritablement entrée dans sa vie dans la cinquantaine. Avec mon mari, on a suivi des cours de danse sociale. À la mort de ce dernier, elle est restée chez elle pendant 3 longues années. La danse en ligne l'a grandement aidée à sortir de son cocon et de sa solitude. Elle dit « J'ai commencé à suivre des cours, je me suis fait des amis, la danse m'a apporté le plaisir de vivre. » Jusqu'à la pandémie, j'ai dansé presque tous les samedis dans le sous-sol de l'école, juste à côté. Explique toujours cette résidente de Saint-Thomas-de-Joliette, en nous servant un petit verre de Saint-Raphaël-en-Bré, peut-être un autre secret de sa longévité. Au programme, de la danse en ligne country un peu, mais surtout des danses sociales, adaptation pour l'occasion. J'ai aussi fait des démonstrations de danse folklorique. Puis on voit sa photo, là, dans l'article. Mon Dieu, si j'espère là, à 98 ans et demi, je vais être très heureux.
Oui, on lui donne 75-80 gros max.
Oui, c'est sûr. J'ai arrêté de suivre des cours, mais je danse encore quand il y a des fêtes à la résidence. Lors d'une fête organisée pour souligner l'arrivée de l'été en juin dernier, c'est elle qui a ouvert la danse en invitant une autre résidente pour une valse. Tout le monde restait assis. J'ai décidé de briser la glace. À 98 ans et demi, celle qui ne porte ni lunettes ni appareil auditif est la plus âgée de sa résidence. « Je ne me sens pas aussi vieille que ça », lance cette mère de 5 enfants. « Je bouge, je fais mon ménage. » Et la danse en ligne l'a-t-elle aidée à rester jeune? Ben, ça m'a donné un air d'aller. On bouge les jambes, les bras, le cœur travaille, ça aide le cardio. La danse travaille aussi la mémoire. Il faut se souvenir de tous les pas. Il faut dire que j'ai toujours aimé la musique. Je chante un peu des chansons à répondre. Là, maintenant, je vous présente un camionneur. Il s'appelle Jacques Plourde. Il dit que c'est pour faire plaisir à sa femme que Jacques Plourde, que tout le monde surnomme Sam, j'essaie de trouver pourquoi, mais enfin, a commencé la danse. J'avais 45 ans. Danser, je n'aimais pas ça plus qu'il faut. Mais Agnès m'a tordu le bras. On a fait 3 cours de danse sociale. L'enthousiasme était pour le moins mitigé. Le déclic est venu au 4e cours. Le prof a mis une toune de Shania Twain. Je lui ai dit, la danse sociale, c'est fini. Tu m'enseignes juste du country. Sinon, je ne viens plus au cours. La menace a été prise au sérieux. Et un cours 100% country a été proposé, se souvient l'homme de 75 ans, à qui on donnerait aisément 10 ans de moins.
Hey, la danse en ligne, ça rajeunit.
On dirait, hein? Il faudrait peut-être qu'à Canadien, on ramasse les chroniqueurs et on s'en va en danse en ligne.
Enfin, j'aimerais ça.
Comment expliquer ce coup de foudre? La musique country vient me chercher. J'ai découvert le country américain au concours de tir de tracteur de Berthierville. On dirait que dans l'anneau d'hier, ça a l'air une place intéressante. Des Américains venaient avec leur gros tracteur pour participer à la compétition. Il y avait toujours de la bonne musique qui jouait à leur kiosque. Sans s'en douter, Jacques Plourde a mis le doigt dans un engrenage qui a changé le cours de sa vie. Ce camionneur, aujourd'hui retraité, s'est trouvé des talents d'enseignant en dansant. J'ai commencé dans un restaurant de la Valtrie. On poussait les tables le long du mur et je montrais des pas de danse country. C'était en 1997. Les jeunes nous regardaient de haut à l'époque. Aujourd'hui, ils disent « Tasse-toi, mon oncle, je saute sur le plancher de danse. Oh. » La relève est là, puis il n'y a pas de doute.
Mais là, « Tasse-toi, mon oncle, c'est pas fin, ça?
» Il a l'air à bien le prendre.
Reste là, mon oncle.
Oui, c'est ça. Depuis, il a enseigné un peu partout dans la Naudière. Cet été, il a dirigé 3 soirées estivales de danse en ligne qui rassemblent chaque fois une centaine de participants de tous les âges sous le dôme du terrain des loisirs de Saint-Thomas-de-Joliette. J'en faisais plus avant, mais avec l'âge, j'ai diminué pas mal. Ça fait 3-4 fois que je dis que je vais arrêter, mais je ne lâche pas. Je suis le Dominique Michel de la danse country. Mais je ne sens pas que j'ai l'âge de passer à mes fins de semaine dans des centres d'achat. Je ne veux pas trop ralentir. Je l'ai fait récemment, j'ai pris 12 livres, ça paraît. Surtout que je ne mange pas bien, ma femme vous le dirait. Pour Jacques Plourde, pas de doute, danser le country en ligne est un merveilleux moyen de garder la forme. C'est vraiment comme un gros cours de gym, dit-il. C'est bon pour le moral, la synchronisation, la concentration. Il faut savoir que chaque danse possède des pas particuliers. Les pas peuvent se ressembler, mais il faut les enchaîner en suivant la musique. Ça fait travailler le cerveau, surtout qu'aujourd'hui, les chansons et les danses passent de mode rapidement. Mieux, la danse country lui a permis de se faire des amis et surtout des amis ES. Car, constate Jacques Plourde, les activités de danse en ligne sont largement fréquentées par la gente féminine. Comment expliquer la faible participation des hommes? Ils sont gênés, ils ne se sentent pas à leur place, je pense. Ils trouvent que la danse, ça ne fait pas assez homme. Ils sont surpris quand ils me voient danser, lance l'homme au chapeau de cow-boy en riant. 400, c'est le nombre de chansons que Christine Soucy a rassemblées dans sa liste de lecture de Dance Country sur Spotify. Et elle connaît par cœur les enchaînements de pas pour chacune. Elle sait quand taper des mains, sauter, tourner. Difficile de croire que dans les mois qui ont précédé ses débuts en Dance Country, en décembre 2023, cette propriétaire d'un centre de massothérapie à l'Assomption, encore du côté de la Naudière, a cru pendant un instant être atteinte d'Alzheimer précoce. J'avais énormément de trous de mémoire et comme il y a eu des cas dans ma famille...
Oui, c'est un peu stressant.
Elle était un peu inquiète.
C'est sûr.
À 48 ans, là, on ne pense pas à avoir ce genre de situation.
Elle a y pensé en tout cas.
Oui, c'est ça. Le médecin qu'elle a consulté a commencé par lui prescrire une diminution de ses heures de travail et plus de temps pour elle. Or, à ce moment de sa vie, la danse en ligne ne l'intéressait pas une miette. Elle dit « J'avais peur de danser devant des gens, peur de me tromper, peur du jugement des autres. C'est lors de l'enterrement de vie de fille de ma partenaire d'affaires que j'ai découvert la danse country. On a suivi un petit cours pour s'amuser, j'ai eu la piqûre, je danse presque tous les soirs maintenant. » La danse en ligne apporte tellement de bonheur à cette mère de trois enfants. Je me suis rendu compte que je n'étais pas aussi gênée que je le pensais et pas si mauvaise. On m'a offert de devenir professeur dans une école de danse de la Naudière.
Wow.
J'ai d'abord dit non. Je ne me voyais pas sur un stage devant tout le monde, mais la propriétaire, Julie Lépine, m'a convaincu. La danse m'a aidé à gagner de la confiance en moi, à me dépasser. Et ça a amélioré mon cardio, c'est clair. Parce que je vous jure qu'on a chaud. Pendant certains événements, on peut danser des 6 ou 7 heures d'affilée. Et pendant ce temps, rien ne vient entacher son plaisir. Sur le plancher de danse, on oublie nos petits tracas du quotidien, on se concentre sur nos pas. Il y a des gens de 18, 20 ans, d'autres de 70 ou de 80. C'est comme une petite famille, on s'entraide et on ne parle jamais de nos problèmes, sauf de nos maux de pied.
Ouais.
Alors ça, c'est un des deux onglets. Je ne vous lirai pas le deuxième onglet, mais le deuxième onglet, ça s'appelle « Des bienfaits de la tête aux pieds ». La journaliste a communiqué avec des experts dans différents secteurs de la santé physique et pour démontrer comment la danse et particulièrement la danse en ligne peut avoir du bienfait, peut apporter des bienfaits sur la condition physique d'une personne.
Oui, on n'en doute pas. Alors, deux secondes avec les témoignages que vous venez de lire.
Oui. Alors, je pense que c'est à considérer. Moi, j'y pense.
Sérieusement. Merci, Yvan.
Oui. Salut.
Ça fait que tout se passe comme d'habitude, c'est-à-dire un peu croche. T'as beau chercher, on met ta gratitude, t'en as plus vraiment dans les poches. Et puis là, tranquillement, les comptes s'empilent. La laveuse vient de lâcher. Tu regardes dehors, t'aimes plus ben la ville. T'as juste le goût de t'en aller. Mais tu te dis que tout finit par passer. Tout finit par passer. Y'en aura pas de facile, c'est ça qu'ils disent en ville. Mets tes idées sur une tablette. Tu prends tous tes rêves, tu mets ça dans une file. Ça paraît bien sur Internet. Ça fait que là, c'est aujourd'hui que ça se passe. Tu mets toute ta vie dans ton char. De toute façon, y'a trop d'affaires qui brassent. On a fini avec ça, puis tu pars en te disant que tout finit par passer. Et là, tu te dis que tout finit par passer. Oui, tout finit par passer.
passé. Tout finit par passer. Tout finit par passer. Et là tu te dis que tout finit par passer. Oh, tout finit par passer. Et là tu te dis que tout finit par passer. Tout finit par passer.
Dave Armeau, tout finit par passer.
Monique, allez-y donc avec votre brève longue, la musique comme thérapie?
Oui, c'est ça. C'était dans la presse plus, Hélène. Alors, quand on entend de la musique, ben, on a probablement envie de danser. Et il y a une nouvelle étude montréalaise qui montre que ce lien entre l'ouïe et le reste du corps a des conséquences profondes pour le cerveau et confirme que la musique pourrait servir à traiter plusieurs troubles neurocognitifs. Alors, Caroline Palmer, qui est neuroscientifique à l'Université de McGill, vient de pousser encore plus loin cette compréhension neuronale de la musique. Je la cite, « Nous montrons que les oscillations des neurones dans le cerveau se synchronisent avec le rythme de la musique. » Alors, la découverte de Madame Palmer aidera à mettre au point des approches de musicothérapie pour des troubles aussi divers que l'épilepsie, le Parkinson ou le bégaiement. Un autre chercheur, M. Morillon, qui est neuroscientifique, lui, à l'Université d'Aix-Marseille. Alors, les premiers résultats de ses recherches laissent entrevoir qu'il serait possible, avec la musique, de réduire le nombre de crises épileptiques chez les patients qui sont réfractaires aux thérapies médicamenteuses. C'est quand même assez fascinant, n'est-ce pas? La rééducation après un accident vasculo-cérébral et l'accompagnement pour les enfants atteints d'autisme, de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité ou de bégaiement est aussi possible. Certaines études montrent que les rythmes les plus populaires, donc les plus faciles à reproduire dans le cerveau, varient d'une culture à l'autre. Et de plus, les accords majeurs sont des fréquences qui sont plus faciles à reproduire pour le cerveau. C'est pour cette raison qu'ils sont plutôt associés aux chansons gays, par exemple « Joyeux anniversaire » ou « C'est à ton tour », tandis que les accords mineurs sont plutôt associés à des musiques tristes, par exemple « Une marche funéraire ». Alors voilà, c'était le rythme qui permet de guérir des choses, en fait.
Alors, allons-y, ne nous gênons pas et écoutons de la musique. Dansons, chantons, c'est bon pour notre santé et aussi pour contrer quelques troubles neurocognitifs, en tout cas, selon ce que vous nous avez dit, Monique.
Oui, exactement.
Et puis, allez-y donc, Yvan, avec une brève, vous.
C'est une brève moyenne longue.
OK.
Finalement, on n'a pas de brève.
J'allais dire, on va laisser tomber le mot brève pour présenter ce segment-là, mais non. Allez-y donc.
Dans une semaine, le 18 au 21 septembre, ça va être la 6e édition du défi Everest Orford qui va se tenir du matin au soir, beau temps, mauvais temps. Des équipes de randonneurs bénévoles permettront à des personnes ayant une limitation fonctionnelle de gravir le mont Orford avec des équipements spécialisés comme la joëlette et le fauteuil de randonnée Trax Mobilité. Cette année, il y a aussi une nouvelle catégorie qui est dédiée aux personnes nécessitant une assistance à la randonnée, mais sans avoir besoin de nos équipements spécialisés. Par exemple, il s'agit d'accompagner une personne non-voyante parce que la personne a une capacité limitée à la marche, pour l'aider à faire l'ascension par elle-même en toute sécurité et lui permettre de profiter pleinement de l'événement et de la montagne. J'en parle parce que c'est un ami de l'émission de 5e édition dans les années passées, Fernand Courchêne, qui est à la tête de ce défi. L'argent ramassé s'en va à Altergo, pour le défi Altergo. Et pourquoi on appelle ça Everest Orford? C'est parce que Fernand Courchêne s'engage à faire 19 ascensions du mont Orford, ce qui est l'équivalent du dénivelé du mont Everest. Et cette année, particulièrement, il y a d'autres randonneurs qui se sont portés volontaires pour faire la même chose. Alors, il va y avoir plusieurs Everest Orford pendant cette fin de semaine-là. Et moi, j'ai une personne que je connais qui s'appelle Jessica Clément, qu'on a interviewée aussi à la 5e édition, qui est enseignante dans une école pour enfants ayant des limitations physiques et intellectuelles, qui va le faire et qui va permettre à de ses élèves de pouvoir monter jusqu'au Mont Orford. Alors, vous allez sur le site et si ça vous le dit, vous faites un don.
Ça se passe quand exactement? Rappelez-nous.
C'est la semaine prochaine, c'est du 18 au 21 septembre.
OK. Puis l'événement s'appelle Everest Orford?
Le défi Everest Orford.
Le défi.
C'est la 6e édition.
Parfait. Merci beaucoup, Yvan. Monique, la choucroute est-elle bonne pour la santé?
Ah ben, qu'est-ce que vous en pensez, Hélène?
J'imagine que oui, du chou, c'est bon pour la santé.
Eh bien oui, la choucroute.
Il y a la saucisse,
bon,
là, peut-être
surtout...
que c'est moins bon.
Pardon?
Il y a la saucisse c'est dans la choucroute saucisse, qui est peut-être ouais. moins bonne pour la santé.
Ah, ben oui, si on accompagne la choucroute de saucisse et de tout ça... Là,
l'un ne va pas sans l'autre.
Ben oui, on peut... mon chéri mange la choucroute dans sa salade tous les midis.
Ah, votre chéri, il est exceptionnel.
Mon beau chéri, oui. Alors, la choucroute, ben oui, c'est bon, mais c'est surtout bon pour l'intestin. 333 composés contenus dans du chou blanc lacto-fermenté en laboratoire ont été testés sur des cellules de paroi intestinale cultivées in vitro, confirmant leurs bienfaits. Trois d'entre eux protègent bien les cellules de l'inflammation et renforcent la barrière intestinale. Donc, chers amis, à la choucroute.
Mangeons de la choucroute avec
oui.
ou sans saucisse.
Sans saucisse, sans côtelettes de porc et tout est quoi.
Ah ouais, tout ce qui est bon finalement. Bon, Yvan.
Tout ce qui cause des arrêts cardiaques. Enfin.
Oh.
Alors.
Vous êtes fataliste.
Dans mon cas.
Ouais, je sais, mais tu sais, on n'en mange pas trois fois par jour là.
Non, oui, je le sais. J'y pense
sérieusement. Mais c'est pour ça que dans la salade, ça se mange bien.
Oui, je vais l'essayer quand même. Est-ce qu'il y a une salade en particulier qui se marie bien avec la choucroute?
Ben, prenez des salades mélangées ou, je sais pas moi, une romaine. Ou, non, il n'y a pas de...
Parfait.
Y a pas de...
La choucroute ouais. dans la salade. Bon.
Ben, vous mélangez ça, puis vous mélangez avec une protéine supplémentaire, puis ça semble très bon.
Et l'affaire est dans le sac, dans l'estomac. Merci.
Et dans l'intestin aussi.
Oui. Yvan, il reste septembre. Pas beaucoup de temps, mais allez-y.
Oui, pas beaucoup de temps. Septembre, c'est à la fois le mois de la sensibilisation au cancer du sang et le mois de la sensibilisation au cancer infantile, une période où l'on rend hommage aux milliers de personnes au Canada dont la vie a été bouleversée par un diagnostic. Parmi elles, il y a Alexandra, qui avait 13 ans lorsqu'on lui a diagnostiqué une leucémie lymphoblastique aiguë. Pendant plus de 880 jours, elle a subi des traitements de chimiothérapie et des hospitalisations. Et au bout de cette période, elle a pu sonner la cloche. Elle était en rémission. Mmh. Alors, les dons comptent pour la recherche pour essayer d'enlever ces grandes périodes de traitement, de trouver d'autres façons de faire. Vous allez sur le site de Société de leucémie et lymphome du Canada pendant tout le mois de septembre.
Et on termine avec une capsule linguistique, salle de bain, chambre de bain. Qu'est-ce qu'on dit, là? Toilette?
La salle de bain, c'est la pièce de la maison où on trouve la baignoire,
oui.
la toilette et le lavabo, et pas chambre de bain, qui ça est un calque de l'anglais. Hein? Une mm-hmm. chambre, c'est là où on dort. On considère généralement salle d'eau et salle de bain comme des synonymes, mais en général, la salle d'eau ne comprend que la toilette ou la toilette et un lavabo, et dans certains cas, laveuse-sécheuse. Vous remarquez, Hélène, que je ne parle pas de bol de toilette.
Non.
Hein?
Encore quelques secondes.
Oui, et enfin, le cabinet de toilette que nos amis appellent powder room, c'est une petite pièce où on trouve une toilette et un meuble lavabo.
Oui, on dirait que les gens sont gênés quand ils vont à la, je sais pas, à la place des arts, ils veulent aller aux toilettes. Je m'en vais à la salle de bain, je reviens. Si tu t'en vas pas prendre ton bain. Merci beaucoup, Monique. Merci beaucoup, Yvan. À bientôt.
À bientôt. Bye.
Vous pouvez vous écouter au quotidien avec Hélène Denis.
je ne me dise t'es pas plus fort. Combien de pères à prendre me reste-t-il encore? Dis-moi avant que je ne finisse dans le décor. Et que je prenne
la pièce « Tomber sur toi » de Miel de Montagne.
Merci beaucoup, Mathieu Tessier. Aujourd'hui, on parle d'un événement important organisé par Vues et Voix, la conférence « Intelligence artificielle et handicap visuel, transformer l'accessibilité ». C'est un événement virtuel et gratuit qui aura lieu bientôt, là, la semaine prochaine, les 16 et 17 septembre. Et pour en parler, j'accueille avec grand plaisir Marjorie Théodore, présidente directrice générale de Vues et Voix. Ma directrice, notre directrice à tous et à toutes. Bonjour Marjorie.
Mais bonjour Hélène. Merci de m'accorder ce petit temps pour en parler.
C'est tout à fait naturel, Marjorie. D'abord, rappelez-nous en quelques mots la mission de Vues et Voix.
Ben, écoutez, la mission de Vues et Voix, on aime ça dire que déjà, c'est une organisation qui existe depuis 1976. Elle a évolué dans le temps. Alors donc, c'était toujours pour produire des livres audio, pour rendre l'imprimé accessible aux personnes qui ont un handicap visuel. Puis ensuite, ça a été élargi beaucoup. Donc, on a ouvert vers les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage, vers d'autres types d'handicap à travers le temps. Mais la mission de base, c'était vraiment ça, pour aider les personnes vivant avec un handicap visuel. Et ensuite, on parle de Vues et Voix, mais on parle aussi de Canal M, qui 10 ans après, en 1986, a aussi permis la lecture des magazines, des journaux, etc. Donc, on était de rendre cette culture, ces informations accessibles aux personnes vivant avec un handicap visuel.
Accessibilité, c'est vraiment le mot-clé.
Tout à fait.
Et je comprends bien qu'on va avoir deux anniversaires à souligner, à célébrer l'année prochaine.
Exactement.
76, 86 pour la radio, donc 40 ans pour la radio, puis 76,
50 ans.
50 ans. Ouais, 50 ans. Wow. On y reviendra, c'est sûr.
Oui, tout à fait.
Alors, Marjorie, dites-nous en quoi va consister la conférence de 2 jours?
Bien, d'abord, pour dire pourquoi cette conférence-là, c'est que, justement, on est une organisation à but non lucratif. Oui, c'est vrai que lorsqu'on parle d'organisation à but non lucratif, il y a toujours les problèmes financiers, problèmes d'argent, etc., problèmes de financement comme tel. Mais ce que je me dis toujours, c'est que c'est pas parce qu'on a des problèmes de financement ou tout ça, qu'on ne peut pas évoluer dans son temps. Il faut qu'une organisation se remette toujours en question. Qu'est-ce qu'on fait, où on est rendu, etc. Donc, lorsque j'ai pensé à cela, c'était vraiment pour dire que on est en 2025, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que nous, comme organisation qui rend justement cette culture accessible, qu'est-ce que ça peut être pour nous d'abord comme organisation, mais surtout pour les personnes vivant avec un handicap visuel, qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça apporte l'intelligence artificielle maintenant? Donc, c'est dans ce sens qu'on s'est dit, j'en ai discuté avec l'équipe et à l'interne et ensuite avec le conseil d'administration pour dire que qu'est-ce que vous en pensez de faire un état des lieux où on est rendu maintenant?
Nécessaire, question pertinente, là, parce que l'IA est là, puis voilà, de plus en plus.
Ouais, ouais. Donc, alors, c'était cet objectif-là. Je sais que je n'ai pas répondu tout de suite à la question.
Non, mais c'est correct.
C'était vraiment pour mettre en contexte pourquoi on a pris la décision de le faire.
Ouais.
C'était vraiment pour dire, parce que malgré qu'on peut être à la direction d'organisation, on a des gens, on est tout équipés, on écoute, on lit, etc. Mais il y a certaines choses qui nous manquent, c'est-à-dire l'intelligence artificielle maintenant, même au niveau international, où on est rendu pour le handicap visuel. Mm-hmm. Donc voilà.
Parce que c'est ça, c'est important de nous donner le but de cette conférence, l'objectif. Oui. Et pourquoi cette rencontre est particulièrement pertinente en ce moment, ça tombe sous le sens aussi, là.
Voilà, tout à fait. Parce qu'on entend partout, puis en plus, l'intelligence artificielle a les avantages et désavantages, puis on entend même déjà, on commence à entendre des histoires d'horreur, des choses, des trucs qu'il faut faire attention en tant que société. Mais nous, c'était de dire, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est dans l'handicap visuel, on est dans l'accessibilité, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont réalisées pour justement rendre accessible encore plus la culture, l'éducation et tout ça? Donc, voilà.
Parce que oui, il y a des pour, il y a des contre, il y a du bon, il y a du moins bon.
Tout à fait.
Cette conférence-là de 2 jours va parler de plein de sujets, va aborder plein de sujets. Est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes thématiques et aussi les invités là qui vont faire partie des conférences?
Bien sûr. Donc, sur les 2 jours, on va toucher justement l'IA avec les technologies où on est rendu, où l'IA et la santé, et l'IA avec l'éducation inclusive, la culture, les médias. Donc, on va toucher ces grands volets-là. On a des personnalités reconnues qui vont en parler, nos conférenciers viennent tant du Québec-Canada que de l'extérieur. Donc, on va parler de l'avenir des technologies avancées face à l'intelligence artificielle. Donc, c'est Louis-Philippe Massé de Humanware qui a fait tous les équipements sur l'accessibilité, et il y a déjà plusieurs années. Donc, alors, ils ont toutes leurs lettres
Ce sont des experts.
Des experts pour venir en parler. Ensuite, on va parler de l'impact de l'intelligence artificielle sur le développement, l'éducation et le développement inclusif avec Coco Bertin et Geneviève Blondin de l'école Jacques Ouellette. Donc, alors, qu'est-ce que ça apporte à l'éducation? Avec Maître Karina Kerser-Wan, on va parler de l'intelligence artificielle en aide aux personnes non-voyantes et malvoyantes. Qu'est-ce que ça apporte
Comment l'intelligence artificielle peut aider ces personnes.
Exactement, tout à fait. Donc, elle va nous en parler. Ensuite, on parle de l'intelligence artificielle et la santé, donc avec Jean Nekema qui en parlera. On va, dans la deuxième journée, parler de l'intelligence artificielle dans la culture et les médias, ce qui nous intéresse aussi en tant que médias aussi, avec Frédéric Lemieux.
Et puis là, je vous arrête, là, parce qu'il y a un panel en 11 heures et je vois que l'animatrice, c'est Marjorie Théodore.
Oui, on m'a donné cette grande tâche-là d'animer. Et là, on va parler de l'accessibilité, médias et l'intelligence artificielle. Donc, progrès inclusif ou menace pour les créateurs?
Ah oui, c'est la grande question.
Donc, ça, c'est vraiment la grande question. Donc, je vais avoir avec moi Julie Châtelain, Alain Renaud et Itel Ouédakar. Et puis, donc, on va en discuter dans un panel. Et ensuite, on poursuit en après-midi avec Basile Mignoneau. On va parler, qui est du Consortium DESI. Consortium DESI, c'est un peu l'instance internationale dans la production des livres adaptés.
Oui.
Donc, ce qui est important aussi pour Visez Voix, cette conférence-là, on va parler de la production de livres audio adaptés depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle. On sait que nous, traditionnellement, le livre adapté, c'était l'enregistrement, un narrateur, un moniteur, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des éléments qui ajouteraient pour rendre la qualité encore meilleure ou même dans la production? Alors voilà, donc lui, il va nous faire un état des lieux de ça, où on est rendu tant au niveau international qu'ici. Et ensuite, on termine la journée avec Marc-André Craig, qui est l'intelligence artificielle, l'art et le handicap visuel. Donc là, on va aller voir un peu au niveau de l'art et de la culture où aussi qu'on est rendu. Donc, c'est vraiment l'état des lieux
avec des gens crédibles.
Des gens crédibles, ouais. Exactement. Et maintenant, de dire, OK, on en a entendu parler, mais nous, dans notre secteur d'activité, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se transmet et quels sont ses apports pour ensuite, après la conférence. Ce qu'on aimerait, c'est que aussi avec les actes de la conférence, nous, comme organisation, de réfléchir là-dessus aussi, avec...
Se positionner. Prendre des décisions.
Exactement, ouais. Parce qu'on n'a pas fait tout ça pour... mettre ce rapport-là sur des tablettes oublie, là.
Ouais.
Donc, on a fait ça pour permettre, pour alimenter la réflexion, dans un plan stratégique, etc. Donc, alors, c'était le but global de cette conférence-là. Et puis, on a bien hâte là, d'y participer.
C'est sûr. Tout ça est en ligne, tout ça est gratuit.
Oui,
et vous
gratuit.
Diriez, à qui s'adressent ces deux jours de conférence,
Marjorie? Bien, c'est sûr aux professionnels du milieu, mais moi, je dirais aussi aux membres des gouvernements aussi, là, qui doivent rendre accessible on parle d'un Canada accessible, mais c'est intéressant de venir maintenant voir où on est rendu dans cette accessibilité-là avec la venue de l'IA. Et c'est sûr aussi pour les personnes qui vivent avec un handicap visuel. Donc, toutes les personnes concernées par ça sont invitées, bien sûr. Surtout qu'on a voulu le faire gratuitement. Et je veux quand même souligner que c'est grâce aussi à...
Un partenariat.
Un partenariat avec le Conseil des arts, Desjardins, la Fondation Saint-Hubert et le RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes de Montréal métropolitain.
Alors, merci beaucoup, Marjorie, pour ces informations. Je rappelle que vous êtes la présidente directrice générale de Vues et Voix et que la conférence intitulée « Intelligence artificielle et handicap visuel, transformer l'accessibilité » vous est offerte en format virtuel, donc on peut nous écouter partout où on est, partout dans le monde.
Partout dans le monde.
Et l'événement est gratuit et ouvert à tous et à toutes. Pour consulter la programmation, s'inscrire ou visiter le site de la conférence, je vous donne l'adresse www.conférencehandicapvisuel.com. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Je m'inscris ». Alors, je répète, www.conférencehandicapvisuel.com. On rigole parce que j'ai fait le geste de m'inscrire, de peser sur le bouton. Marjorie, merci beaucoup. Puis, bonne conférence. Nous serons à l'écoute.
Oui, merci Hélène.
Et oui, on le retrouve un petit peu plus tard, mais il est tout là. Bonjour Dominique Tremblay.
Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va, et vous?
Très bien, merci.
Super. Alors, c'est la chronique parasport avec vous, Dominique. Et vous commencez par nous parler d'un médaillé en para-canoë-kayak.
Oui, bien, Mathieu Saint-Pierre de Shawinigan participait il y a quelques semaines, en fait, il y a deux semaines, au championnat du monde de canoë-kayak en sprint, donc des sprints de 200 mètres. Il avait été éliminé en demi-finale lors de cette compétition-là. Sauf que en semaine dernière, il a participé au championnat du monde de longue distance, donc des distances de 10 km sur rivière. Donc, et il a terminé avec la médaille d'or. C'est une très belle performance pour Mathieu.
Bravo.
Saint-Pierre. Avant d'avoir, bon, il est devenu paraplégique il y a à peu près une dizaine d'années. Et avant de son accident, Mathieu Saint-Pierre faisait déjà du canot et kayak et participait à des longues distances. Donc, il est revenu à ses anciens amours et ça lui a bien... ça lui a eu souri lors de ses championnats du monde avec une médaille d'or. C'est parce que l'entraînement et le type aussi de travail qu'on fait dans le canot entre du sprint et de la longue distance est complètement différente. Donc, même si ça fait à peu près 8-9 ans que Mathieu pratique le sprint, il a toujours des difficultés avec le départ qui est crucial dans une course qui dure seulement 200 mètres, tandis que lors d'une course de 400 mètres, donc il faut avoir beaucoup d'endurance, mais aussi il faut savoir lire bien les courants de la rivière pour gagner de la vitesse et des choses comme ça. Et c'est dans ce genre de situation que Mathieu excelle. Donc, c'est une très belle performance. Il a aussi gagné une médaille de bronze en kayak, donc sa médaille d'or était en canot. Il a changé d'embarcation pour passer au kayak et il a terminé en troisième position. La différence entre le canot et le kayak, la façon dont on est assis dans le bateau, dans l'embarcation, est différente. C'était la première fois qu'il faisait une compétition en kayak. On verra s'il a bien apprécié. Mais je suis très, très content là pour Mathieu, qui a enfin réussi à monter sur la plus haute marge du podium en canot et surtout sur une longue distance. Donc, c'était très bien pour lui.
Un grand champion, Mathieu Saint-Pierre. Oui. On reste dans les champions. Médaille de bronze pour deux athlètes au boccia.
Oui, ça. Julianne Chiabanou et Alison Levan étaient à la Coupe du monde de Séoul la semaine dernière. Ça s'est terminé lundi. Les deux athlètes ont remporté la médaille de bronze en double BC4 lors de cette compétition de la Coupe du monde. C'est une très belle performance de leur part. Lors de la dernière journée de compétition, il y avait seulement 5 paires BC4. Donc, c'est la classification BC4. Là. Et il y avait seulement 5 pays qui étaient représentés, mais c'était quand même de très bonnes équipes. Donc, les premiers mondiaux, Hong Kong était là, la Grande-Bretagne qui était le tout nouveau champion d'Europe. Il y a aussi la Malaisie là, qui, depuis 2 ou 3 années, s'illustre sur la scène internationale. Et le Canada qui était 4e aux Jeux paralympiques. Lors de la dernière journée, leur dernier match de la compétition devait absolument battre le double de Hong Kong. Ils ont réussi à le faire par une victoire de 8-1. Très belle victoire. C'était la première fois que le Canada battait l'équipe de Hong Kong dans la catégorie BC4. Et ça leur a permis de remporter cette belle médaille de bronze. Ça va leur donner beaucoup de confiance pour la compétition du championnat des Amériques qui aura lieu le mois prochain en Colombie. Lors de cette compétition, ils devront terminer dans les 3 premiers pour obtenir leur laissez-passer pour le championnat du monde qui va avoir lieu, encore une fois, en Corée en 2026. C'est une bonne chose. Et en individuel, quelques jours auparavant, Julianne Chiabanou avait aussi remporté la médaille de bronze, en individuel. Donc, une très belle performance.
Certainement. Vous nous parlez maintenant de Kirk, pas Kirk Douglas, mais Kirk Tremblay.
Oui, c'est ça. Donc, c'est un athlète en para tir à l'arc qui avait terminé pour la première fois à son premier jeu paralympique en 6e place à Paris. Il se prépare pour les championnats du monde qui vont aussi avoir lieu en Corée là dans une dizaine de jours. Le Canada va être très bien représenté, peut-être la plus grosse délégation en tir à l'arc pour un championnat du monde. Là, le Canada va avoir 5 athlètes, donc 2 Québécois et 1 Québécoise. Lynn Tremblay qui a déjà participé à des compétitions de tir au pistolet va aussi être sur place. Donc, on espère avoir des bons résultats. Au cours de la dernière année, Kirk Tremblay a remporté une médaille de bronze lors d'une Coupe du monde. Donc, il espère bien faire, même si son entraînement n'a peut-être pas été optimal puisqu'il a subi quelques blessures au cours des derniers mois. Mais ça sera surveillé pour les championnats du monde. Et puis, on verra ce que ça va donner. Puis, on s'en reparlera après la compétition.
Bonne chance, Kirk. Oui. Dominique, en terminant, on en avait parlé la semaine dernière des Jeux paralympiques de Paris. Une année est déjà passée. Vous avez donc d'autres choses à dire, comme une partie 2, une deuxième partie.
C'est ça, donc.
Au sujet de vos coups de cœur.
En France, donc cette semaine, les Français ont pu célébrer les Jeux paralympiques de Paris. Il y a plusieurs, des milliers de personnes se sont déplacées dans la capitale française pour rencontrer les athlètes et les médaillés français et pour se remémorer de belles expériences. Ils ont fait une journée paralympique. Ils ont pu essayer aussi différents sports. Donc, ça a été une très belle expérience pour tout le monde qui était sur place. Les Jeux paralympiques de Paris ont été toute qu'une expérience pour tout le monde qui était présent. Moi également, j'étais là dans le cadre de mon travail. Donc, c'était toutes que des Jeux paralympiques. Maintenant, on se prépare pour les Jeux paralympiques d'hiver qui vont avoir lieu au mois de mars l'année prochaine. C'est en 2026, les Jeux d'hiver à Milan, Cortina. Et les Jeux paralympiques d'été vont être à Los Angeles en 2028. Donc, ça n'arrête pas. C'est comme un feu roulant, les sports paralympiques.
Oui. Alors, merci de nous avoir parlé ce matin. Puis, on souhaite vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt,
avec
Dominique.
Plaisir. Au revoir.
Hier, j'ai assisté à la faune locale. C'est présenté en formule 5 à 7 au Théâtre Jean Duceppe. La faune locale, c'est un texte de Stéphanie Labbé, vraiment une autrice que j'ai découverte avec grand plaisir, une plume à surveiller, va sans dire. Mise en scène de Véronique Côté avec Marie Bernier, Yannick Chapdelaine, Alexandre Dubois, Tania Contognani, Stéphanie Labbé, qui joue en plus d'avoir écrit la pièce, Roger Larue. Et c'est une pièce qui dure à peine une heure. J'en aurais pris plus. C'est vraiment très, très bon. C'est difficile à décrire. En fait, j'ai pas envie de vous raconter l'histoire, mais c'est, j'allais dire, la vie avec ses hauts et ses bas. On est devant des humains qui ne s'écoutent pas. C'est rare, hein, ça? Alors, c'est féroce, c'est drôle, ça finit par nous laisser sans voix. Et je vous invite à découvrir dans cette formule très sympathique. On nous offre une consommation et un petit quelque chose à manger. Des fois, c'est salé, des fois, c'est sucré. Hier, c'était comme du jerk, là. Et ça venait de Charlevoix, d'une ferme de Charlevoix. C'était bien bon. Alors, je vous rappelle le titre, La faune locale s'est présentée dans les coulisses derrière le théâtre Jean Duceppe. C'est absolument sympathique. Un quand je dis sympathique, c'est pas nécessairement la pièce, parce que la pièce a des thèmes sérieux et graves, malgré qu'on rit beaucoup, mais sympathique dans le sens où on est dans un lieu inhabituel. Oui. Je demandais la date de la fin de semaine. Est-ce qu'il se passe quelque chose de spécial dans votre vie en fin de semaine, Mathieu?
On va dans le bois.
Encore?
Ben oui.
Allez-vous aux champignons?
Non, on s'en va à Rivière-Jaune.
C'est où ça, la Rivière-Jaune?
À Sainte-Mélanie.
Ah, alors si on veut vous retrouver, on s'en va à Rivière-Jaune.
Au camp brun à Rivière-Jaune.
OK. Ben, bon week-end, cher Mathieu. Bon week-end, chers auditeurs et auditrices. Merci d'avoir été à l'écoute. Ça passe vite, hein? On se retrouve lundi prochain. La semaine prochaine, j'ai très hâte. Je vais rencontrer Annie Desrochers, qui est une animatrice que vous connaissez sans doute, une animatrice vedette à Radio-Canada. Elle va venir nous parler de son livre, son roman graphique Transmission qu'elle a fait avec Christian Quesnel. Elle sera avec nous mardi. Mais nous, on se retrouve lundi. À bientôt.